Il y a eu, voici quelques jours, ou plutôt quelques nuits, cette joie de Noël. Le lendemain, même si la plupart d'entre vous n'ont pas pu suivre ce chapelet de fêtes qui succède à Noël, le lendemain, nous avons célébré la fête Saint-Étienne, le proto-martyr, premier des martyrs, qui est, entre parenthèses, le titulaire de la cathédrale du diocèse de Meaux. Donc c'était une fête dans le diocèse. Saint-Étienne, c'est la figure de la souffrance gratuite, ce jeune homme qui n'a rien fait sinon suivre son Dieu et être ordonné diacre, c'est-à-dire serviteur. C'est donc la souffrance du serviteur qui fait la joie totale, qui fait la joie totale. Il y eut le lendemain la fête de Saint-Jean, fête joyeuse là encore, puisque c'est le disciple bien-aimé qui était célébré, celui qui a cueilli du cœur de Jésus tous les secrets divins et humains de son maître. C'est la prunelle des yeux du Seigneur à qui Jésus a confié cette autre prunelle encore plus éminente qui est sa Sainte Mère, donc fête de joie. Aujourd'hui, nous devrions célébrer, mais le dimanche prime, la fête des saints innocents. Là encore, nous retombons dans la souffrance, et quelle souffrance, parce qu'il s'agit de la mort des innocents, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire de ceux qui ne sont même pas donnés la peine de songer à quoi que ce soit ou de vouloir quoi que ce soit, qui ont été exterminés parce que potentiellement ils représentaient un danger aux yeux d'Hérode, qui pouvait être le Messie. Voyez donc cette succession de joie et de peine qui suit immédiatement la fête de l'incarnation. C'est à ne rien comprendre, et en réalité, si l'Église a disposé les choses ainsi, l'Église qui est notre mère, qui est la pédagogue par excellence, c'est parce qu'elle veut nous enseigner quelque chose de très profond. La vie chrétienne est une succession de joie et de peine. C'est même, et ce mystère éclate dans la croix, c'est même conjointement la plus grande des joies et la plus grande des peines. Et cette synthèse que je vais enseigner aujourd'hui dans l'Évangile, qui est l'Évangile que l'on a connu de la présentation de l'enfant Jésus au temple, que nous avons célébré le 2 février, l'Église anticipe, n'attend pas pour nous livrer les secrets du prophète Siméon et de la prophétesse Anne. Il nous explique, du moins Siméon nous explique très clairement cela, ce qu'il vient de nous dire, c'est-à-dire la coexistence de la plus grande des douleurs, puisqu'il évoque déjà le glaive qui transpercera le cœur de Marie, et la plus grande des joies, c'est-à-dire le relèvement de beaucoup, pour reprendre ces termes, le relèvement de beaucoup en Israël. Voilà donc que nous sommes dans cette période de Noël, après le réveillon, vous savez, après la découverte émerveillée pour les plus petits d'entre nous et même pour les plus grands d'entre nous, des cadeaux de Noël, voilà qu'il nous faut songer à la gravité de la vie chrétienne, succession ou même coexistence de joie et de paix. La question, elle est la suivante, surtout après les mots que je vous ai adressés pendant la vigile de Noël, j'espère que vous avez été attentifs. Comment se fait-il que ce Jésus que je vous ai annoncé, ou plutôt que l'Église nous annonce comme étant le prince de la paix, je vous ai dit que c'était le titre par excellence que nous utilisions dans les offices du jour de Noël, comment se fait-il que ce prince de la paix n'ait pas pu instaurer, puisqu'il était Dieu et donc tout-puissant, d'un coup et définitivement la paix? Qu'enfin, nous en ayons fini avec la souffrance et que tout ne soit que joie, luxe et volupté, comme dit le poète. Il y a là un mystère, évidemment, que nous ne pourrons élucider que lorsque nous serons face à face avec le Créateur, et qu'il pourra nous expliquer profondément les secrets de sa providence. Mais les théologiens n'attendent pas la vision béatifique pour essayer de rendre compte de cela. On a ce qu'on appelle en théologie un certain nombre d'arguments de concordance, c'est-à-dire des arguments qui n'entendent pas expliquer ou dévoiler totalement le mystère, qui par définition demeure obscur en grande partie, mais qui essaye de montrer en quoi Dieu a raison de faire ainsi et pas autrement. Comment se fait-il que Dieu n'ait pas voulu que la paix soit instaurée définitivement dès cette terre avec l'incarnation de son Fils, alors qu'il aime infiniment sa créature? Eh bien, la seule réponse que les théologiens ont trouvée, l'argument de confiance, c'est que cela n'aurait pas été bon pour nous. Vous me direz que c'est un peu la pirouette du théologien, peut-être un peu facile de prétendre que parce que les choses sont ainsi, c'est sans doute que Dieu a son plan et que donc c'est bon pour nous. Mais songeons un peu à ce que nous pouvons effectivement saisir rationnellement, avec notre bon sens, de ce que je viens de vous dire. Il était donc, paradoxalement, que l'homme souffre, que l'homme continue à souffrir et de temps à autre cueille de ces bonheurs dont chacun de vous, mes frères, vous avez déjà goûté, j'en suis sûr, grâce à la vie de la grâce. Il y a à endurer la souffrance, et cela est bon pour l'homme sur cette terre. Alors, ne sombrons pas dans ce qu'on reproche à l'Église, c'est-à-dire un discours qui parfois, c'est vrai, au cours des siècles passés, a un peu trop insisté sur la souffrance, sur le bien fondé de la souffrance. Il ne s'agit pas de présenter un Dieu sadique, qui n'existe pas, nous le savons, mais qui est un Dieu d'amour. Mais à l'égard duquel nous disons, le psalmiste dit, tout est dévoyé comme est bon le Seigneur. Seigneur qui aime cette créature. Dieu n'est pas un sadique. Pourquoi a-t-il permis que la souffrance demeure jusqu'à ce que nous quittions cette terre pour entrer dans la gloire? Parce que cela est bon pour nous. Pourquoi est-ce que cela est bon pour nous? Parce qu'alors, nous sommes comme poussés, comme stimulés à essayer de tout faire pour dépasser cette souffrance. Pour dépasser cette mystérieuse souffrance, commence par l'amour. C'est-à-dire non pas en serrant des dents, non pas en rongeant son frein ou en voulant à ce Dieu qui nous a fait venir à l'existence alors que nous n'avons rien demandé, à la façon d'un Job dans le livre du même nom, l'Ancien Testament, non pas en voulant à tous ceux qui nous infligent des maux, non pas en s'en voulant à soi-même parce que bien souvent nos souffrances sont les conséquences de nos actes pervers, non pas dans cette mesure-là, mais en surenchérissant d'amour. Voilà ce à quoi Dieu veut nous pousser, en nous laissant toujours endurer la souffrance, en ne retirant pas ce fléau, il veut nous pousser à aller au bout de l'amour. N'est-ce pas exactement ce qu'ont vécu chacun de ceux que je vous ai présentés au début de cette petite homélie? Saint Étienne, Saint Jean, les saints innocents, et puis la Vierge Marie, à qui on prédit qu'elle va souffrir énormément, toutes ces personnes-là ont su, par le creuset de la souffrance, exceller. Leur cœur, chauffé par la souffrance, si l'on veut, a fondu et n'a fait plus qu'un avec la volonté divine qui est comptée. Voilà ce fruit mystérieux de la nativité du Fils de Dieu dans la chair. Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, a gagné un titre à dire à l'être humain, vois, il est possible de passer outre la souffrance, de dépasser, de manger, si j'ose dire, d'englober la souffrance, pour en tirer un bien, comment? Par l'amour, par le feu de l'amour. Voyez cette merveille de ce Dieu qui a toute légitimité à nous dire. Pourquoi? Parce que dans ce petit enfant qui va connaître les astres de la vie humaine et qui culminera dans la souffrance sur la croix, 33 ans plus tard, ce Dieu-là peut nous dire, mon fils, ma fille, ce que je dis, je le signe de mon sang. Ce que je te dis ne sont pas des fables, ce que je te dis, je l'ai vécu moi-même, et je te prouve, parce que j'ai vécu la condition incarnée en toute chose, excepté le péché, que l'on peut aller plus loin grâce à la souffrance. Eh bien, chers frères, je suis navré de ne pouvoir vous en dire davantage. C'est là que l'horizon se ferme, et que, après cette sortie de l'ombre, en quelque sorte, que les théologiens se risquent à faire au fil des siècles, en montrant que la souffrance a son sens parce qu'elle nous pousse à exceller dans l'amour et donc à nous unir davantage à Dieu et à nos frères, à correspondre davantage au dessein de Dieu sur nous. Je suis bien obligé d'avouer avec tous mes grands frères théologiens que nous ne pouvons pas dire davantage. Il faut se contenter de ce balbutiement et supplier le Saint-Esprit de nous faire comprendre en profondeur ce que je viens de vous dire. Alors, vous serez comme le vieillard Siméon, vous serez comme la vieille âme du temple qui, au soir de leur vie, après de longues et douloureuses années sur cette terre, mais toujours dans la veille et toujours en étant persuadés que Dieu ne veut que leur bien, ont enfin eu la source de leur consolation. À deux doigts de la tombe, voilà que l'enfant Jésus, le signe de la délivrance, le signe de la plus grande des joies leur apparaît. J'espère que c'est ainsi que nous mourrons, c'est-à-dire consolés par Dieu parce que nous aurons été longanimes, nous aurons tenu la distance en acceptant ces souffrances comme un moyen d'entrer dans un plus grand amour. Je demande à la Vierge Marie, qui, plus que tout autre, parce qu'elle avait un cœur immaculé, a compris cela, qui a vécu du mystère même de la croix sanctifiée par la transfiction. Je demande à la Vierge Marie, qui est là à la crèche, qui nous aime profondément et qui aimerait que chacun d'entre nous comprenne tous les desseins du cœur de son Fils, je lui demande de nous faire pénétrer plus avant dans ce mystère de la souffrance, non pas en tant qu'elle a une valeur pour elle-même, mais de la souffrance en tant qu'elle est un moyen de rédemption dans un plus grand amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.